down to business. I got my wild cherry diet Pepsi, and I got my blackjack gum here, and I got that feeling. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
Oui, non, non, vous ne trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
Don't ever feed him after midnight.
She's alive! Alive!
Ready to party!
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
How about man? Well, nobody's perfect.
Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
Vers l'infini et au-delà !
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans une émission où tout le monde va se battre en duel. Eh bien oui, en ce soir férié, l'équipe n'est pas au complet, mais clairement très motivée à se disputer en 1v1 sur des projets, ma foi, éclectiques, mais toujours dans le respect de l'esprit coubertin, comme le film de Jérémy Saint dont nous parlons ce soir. Face à Blue et compagnie, la bataille sera rude pour savoir si c'est toujours possible de faire un film pour enfants sans cynisme. Bataille qui sera d'autant plus intense face au retour de la bonne comédie romantique à l'ancienne grâce à The Idea of You. Nous tenterons aussi de nous débattre contre le début de semaine en discutant du film comme un lundi. Nous serons divisés sur la politique de Un homme en fuite ou encore sur le sexe face à la vie selon Anne. Enfin, on s'offrira un détour par le Japon filmé par Michael Mann avec la saison 2 de Tokyo Vice, unique seule en scène de cette émission qui sera minée de clash en face à face. Tout ceci bien sûr à un peu plus de 2 mois des JO, Jules vient d'ouvrir la cérémonie, tout va bien, c'est une cérémonie thématique, une émission thématique vous l'aurez compris, qui commence tout de suite par un classico, un choc des champions, Yuri et Laurent qui se disputent l'actualité. Extérieur Nuit, c'est parti. Breaking news. Cette semaine, Yuri réalise, Yuri parle, Yuri donne le box-office, Yuri fait tout. Alors cette semaine
Oui, alors du coup, Yuri prend son portable pour trouver les chiffres du box-office de la semaine, qui sont donc les suivants. Un petit truc en plus, le film visiblement événement de cette année, qui fait 1 130 000 entrées en plus en sa première semaine.
Peut-être qu'on en parle.
0 en plus.
Ouais, moi j'aimerais bien, en fait, moi j'aimerais bien en parler. Enfin, je voulais le voir, mais j'ai dû voir d'autres films pour aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant. Alors, il y a eu un peu tout qui a été dit sur ce film et son contraire, c'est-à-dire que tout le monde a dit ah c'est le meilleur démarrage depuis les Ch'tis, etc., etc. C'est un peu à relativiser au vu de sa première semaine qui est certes très solide mais qui va pas non plus faire le score d'un touchable ou d'un truc comme ça.
Puis il est sorti un 1er mai aussi.
Il est sorti un 1er mai et on pourrait, je pense, parier sur le fait que les sorties d'aujourd'hui seront tout aussi incroyables. Mais c'est quand même un film qui sort de nulle part, qui a eu très très peu d'avant-première et qui, par une espèce de phénomène assez impressionnant, s'est retrouvé en première place de ce box-office. En deuxième place, très 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 loin derrière, c'est The Fall Guy qui, sans mauvais jeu de mots, se casse la gueule et du coup qui fait seulement 320 000 entrées en sa première semaine. Ça veut dire que c'est quand même un pari plus ou moins raté. Ensuite, on enchaîne avec Back to Black, Frère qui n'en démord pas, qui est à 414 000 entrées pour sa troisième semaine. Et le tableau volé de Pascal Bonitzer fait 130 000 entrées sur sa première entrée, ce qui est, je crois, un des meilleurs démarrages de son distributeur Pyramide, ce qui est plutôt très cool pour un film qui a été assez peu distribué. Il a une moyenne par salle similaire à Fall Guy, donc comme quoi le public français est de plus en plus difficile à comprendre et à saisir dans sa complexité.
Et alors, Laurent, le 14h de Paris, nouveau jour férié, nouveau score de folie ?
Ah bah là, c'est vrai que ça démarre assez costaud avec La Planète des Singes, le nouveau royaume, la suite de la trilogie, suite du film des années 70, parce que Hollywood n'en a vraiment plus rien à foutre. 2884 entrées pour 27 copies, donc une lourde moyenne de 131. Il est suivi d'assez loin pour un film vachement bien distribué, donc il fait quand même un très beau score. Dont on parle ce soir, d'ailleurs, Blue et compagnie, le dernier film de John Krasinski qui fait 1723 entrées pour 15 copies, donc une très grosse moyenne de 172. Enfin, en troisième place, un autre film dont on vous parle aujourd'hui, un peu une troisième place surprise, je dirais, comme un lundi.
Dont
on parle ce soir, un film japonais de Ryo Takabayashi qui fait 670 entrées pour 10 copies, donc une belle moyenne de 84. Un trio de tête assez étonnant. Les perdants de la semaine, bah écoute, il y en a deux. 2, un qui s'appelle Mon pire ennemi, qui s'est probablement même pas déplacé pour aller voir le film, parce qu'il n'y a que 2 personnes qui l'ont vu pour 2 copies. Et mon document me dit une moyenne par copie de 2, parce que manifestement il ne sait pas compter, alors que c'est une moyenne par copie de 1. C'est un peu dommage, ça va être un obscur documentaire iranien sur un mec qui met en scène ses propres interrogatoires slash torture. Je comprends pas trop le concept. Clairement, je pense que je suis pas le seul. Peut-être que vous devriez vous y intéresser pour comprendre leur délire iranien, peut-être.
Et un deuxième perdant?
Il y a un deuxième perdant, mais alors qui s'appelle Wake Up, qui a l'air d'être un très obscur film de d'horreur avec des mecs avec des véganes qui se tapent contre un veilleur de nuit. J'ai pas le nom d'entrée.
Ça a l'air vraiment bien.
Que j'ai vu ce film contre toute attente et je l'ai vu 5 fois. Je vous en parlerai plus tard, mais
c'est un qui fait non communiqué d'entrée pour 2 copies. Donc de toute façon, ça n'allait pas non plus faire une très grosse réussite. Réveillez-vous peut-être plutôt que d'aller voir ce film. J'en sais rien.
Et ben merci beaucoup Laurent. On est mercredi, mais on va remonter un peu le temps pour parler de Comme un lundi, dont on écoute la bande-annonce tout de suite.
Looky. She is the perfect fit, I promise.
Did she even see you?
She was about to.
Eh bien, comme un lundi, visiblement, parce qu'on commence en fait par Blue et compagnie. Je ne sais plus lire. Donc, Alban, de quoi ça parle, Blue et compagnie? C'est un film d'animation, de prise de vue réelle?
C'est les deux, Rita. Ça mélange l'animation 3D et les prises de vue en réel. Et c'est un film de John Krasinski, alias Jim Halpert dans The Office, et qu'on connaît, selon mes très chers collègues, pour Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2, et peut-être Sans un bruit 3, qui va pas tarder à sortir au cinéma.
Il ne réalisera pas.
Et ça raconte, c'est un film pour enfants, ça raconte l'histoire de Bee. C'est une petite fille qui a 12 ans, qui a perdu sa maman, et son papa est à l'hôpital parce qu'il a le cœur cassé. C'est vraiment une image, on sait pas vraiment ce qu'il a, mais voilà. Et en fait, elle se rend compte qu'elle peut voir les amis imaginaires des gens, et elle part dans une aventure avec Ryan Reynolds pour redonner les amis imaginaires aux enfants qui sont maintenant devenus grands. Donc c'est une histoire un petit peu farfelue comme ça, mais assez mignonne. Le film est plutôt bien réussi. Enfin, moi j'étais là aujourd'hui un mercredi férié en salle de ciné avec beaucoup d'enfants dans la salle, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont rigolé et qu'ils aient été émus, et que les parents avaient l'air de rigoler aussi. Et quand il y avait des scènes touchantes, on voyait les parents embrasser leurs enfants. Donc je pense que c'est un film qui fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est déjà bien interprété, parce que l'histoire est mignonne, et parce que l'histoire en fait pas des caisses non plus. C'est assez honnête, c'est assez sincère dans ce que ça raconte. Et en même temps, je sais qu'Yuri va le défendre aussi un petit peu. Il y a plein de choses géniales dans le film, notamment moi ce qui m'a plu, c'est qu'il y a plein de références cinématographiques, mais pas forcément gratos en disant moi je connais tel film. C'est aussi pour montrer que voilà, le cinéma, notamment le cinéma pour enfants, ça peut aider parfois à grandir. On rencontre des personnages qu'on va aimer quand on est enfant et qui vont nous suivre un peu toute notre vie. Ça va nous permettre aussi de nous réfugier, d'être des acolytes un petit peu comme ça. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé touchant en fait dans le film. On rencontre plein de, par exemple, pas tous les dire, mais on voit, j'imagine Elliot et le dragon sur une plage à un moment donné, donc il leur fait coucou. On voit peut-être Flubber à un moment donné aussi, et que des trucs comme ça qui sont vraiment touchants et qui sont pas là pour faire du name dropping, qui sont vraiment là pour dire bon bah voilà, ces personnages m'ont aidé à grandir, ils m'ont consolé par moments, et je trouve ça cool de les célébrer, tu vois. Ensuite, le film pêche un petit peu par moments d'un point de vue scénaristique, c'est-à-dire que le film n'avance jamais beaucoup. On dit que quand on lit le synopsis, on a l'impression qu'on va partir dans une grande aventure entre ses enfants imaginaires et ses amis imaginaires et leurs enfants. Finalement, l'histoire piétine un petit peu au milieu, et on peine en fait à arriver à la fin. On se demande comment ça va finir cette histoire. On se dit bon, s'il y a que ça en fait dans le scénario, notamment dans la relation avec son père, dans la relation avec son propre ami imaginaire à elle, parce que c'est aussi l'enjeu du film, qui est en fait assez prévisible, mais après ça reste, on n'est pas le public, donc forcément les enfants vont pas forcément s'en rendre compte. Mais voilà, je trouve que c'est dommage à ce niveau-là. Le deuxième bémol que je mettrai au film, c'est l'omniprésence de la musique, vraiment ultra pathos tout le temps pendant 1h44, et c'est un peu dommage parce que ça gâche en fait des vrais moments de grâce. Le film a 2-3 séquences qui sont très très belles, notamment sur ce que le film veut montrer, sur la rencontre entre les enfants qui sont devenus grands et leurs amis imaginaires. C'est vraiment des très belles scènes qui sont très intelligentes, très intelligemment mis en scène, etc. Et voilà, je trouve que Je suis content qu'un film comme ça puisse fonctionner, puisse plaire aux enfants, et je vais pas retenir le film pour les bémols que je viens de citer. J'encourage vraiment les gens à y aller. Ça donne envie d'aimer ses parents, ça donne envie d'aimer ses enfants, donc c'est vraiment cool.
Bon, bah, ça a l'air très doux comme tu le dis, Yuri.
Moi, pareil, c'est une très très bonne surprise. Pas que, en fait, moi, j'en attendais pas énormément, mais j'étais quand même assez curieux du projet parce que j'étais, en fait, je. Et en effet, John Krasinski qui vient quand même de son premier film, ses premiers deux films du survival horror avec des aliens qui bouffent des gens et il faut pas faire un bruit. Là, c'est l'inverse total. Il fait un film vraiment résolument familial et au sens noble et propre du terme. Et il y a quand même quelque chose d'assez beau là-dedans. En effet, je trouve qu'il y a une manière à la fois de rendre hommage et de s'inscrire dans une sorte de savoir-faire américain, hollywoodien, qui n'existe presque plus. En fait, c'est des films pour enfants, familiaux, donc qui s'adresse à la fois aux enfants, comme tu l'as dit, et aux parents. C'est-à-dire qu'on peut le voir en tant qu'adulte et on se dit, putain, le film m'a pas pris pour un con, quoi. Et je me suis moi aussi laissé emporter par ce film, alors qu'il raconte une histoire complètement auteur d'enfant et avec quelque chose que le cinéma hollywoodien a du mal à avoir, une espèce de premier degré absolu, une sincérité totale, une douceur, une vraie poésie. Parfois, je suis d'accord que parfois la musique en fait un peu trop, et en même temps, moi j'ai chantonné le thème en sortant parce que je le trouve super réussi. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement doux. On dirait vraiment une production Amblin des années 80, mais vraiment bien adaptée, quoi, bien réussie. C'est-à-dire qu'on dirait même pas qu'on est à notre époque. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas internet, il y a tout un truc qui n'existe pas dans le film, et du coup, c'est un peu une capsule hors du temps. Et Krasinski a quand même ce talent, et je dirais c'est ce bon goût de s'attacher à sa mise en scène, de s'attacher aux images qu'il fait. Il va chercher le chef-op de Spielberg, donc encore une parenté avec un cinéma familial très, très ancré. Et il arrive, je trouve, à vraiment donner vie même à New York. C'est-à-dire qu'il y a toute une séquence qui se passe à la fête foraine à Coney Island, et il y a des séquences comme ça de rêve où en fait ce parc forain, cette fête foraine qui est complètement dépeuplée, où il n'y a rien, qui va d'un coup venir se repeupler de tout un tas d'amis imaginaires qui ont fait une espèce comme ça d'ode à l'imagination, à la poésie, même tous les amis imaginaires, comme tu l'as dit, c'est des références, en même temps elles sont un peu mélangées, c'est-à-dire que il y a des personnages de cartoon, mais ils sont bizarres, ils sont pas tout à fait comme on s'en souvient. Et là où il y a
c'est une question
vraie...
de droit, ça, Yuri.
Mais je trouve que non, il y a une espèce de peut-être, mais il y a une espèce de dommage à l'imagination enfantine qui va mélanger des trucs, des cow-boys, mais qui auront des grands yeux et des ailes, tu vois. Il y a un truc qui se mélange et c'est chouette et c'est assez doux. Et en effet, je trouve ça bien que ce film-là existe. Je trouve bien que ce film-là marche. Et en effet, il vient combler pour moi aussi une espèce de manque de cinéma américain qui prend les gens par la main, premier degré, avec une volonté de leur raconter des histoires et de leur raconter des histoires avec un savoir-faire technique en plus, parce que le mélange prise de vue réelle et animation est très 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 réussi, qui voilà, moi m'a vraiment charmé, m'a plu, m'a ému aussi par moments. Et j'avoue que même si en effet il y a un côté un peu pathos, etc., le film arrive quand même à faire un truc extraordinaire, c'est qu'il arrive à faire jouer Ryan Reynolds.
C'est ce que j'allais demander.
Sans qu'il en fasse des caisses.
Bah, Alban,
en tout cas, il fait pas Deadpool.
Non, c'est sûr, il fait pas Deadpool. Mais encore, heureusement.
Oui. C'est-à-dire qu'il il fait pas. Tu sens qu'il a pas surimprovisé sur le plateau. Ouais, tu sens que tout le monde s'est tenu à carreau et a fait le film qu'ils avaient envie de faire. Et pour ce geste-là de sincérité et presque d'innocence, je trouve que le film est quand même très réussi et pour ce qu'il est, à savoir un film pour enfants de divertissement familial.
Bah, moi, je trouve ça intéressant que tu dises qu'il est pas que c'est un film. Il y a quelqu'un qui vient de l'horreur, mais en fait, je pense que c'est des genres où si tu ne prends pas au sérieux ton public.
Exactement,
justement,
ouais.
Tu peux pas. Il faut de la sincérité. Rester premier degré, sinon on sent qu'on se fout un peu de la gueule des gens. Mais en tout cas, ça donne très envie, Blue et compagnie, vu comment vous en parlez. On va complètement voyager vers le Japon et on va parler de Comme un lundi. Qui est donc un film sur le.
Kideo Shindes. Boktachi. タイムループしてます。
みんな止まり？
若いね。
もう1週間繰り返してます。
嘘でしょ。
みんな止まり？
若いね。
見ててください。今から部長がくしゃみをします。
フェニックス、tu viens d'arriver. Tu étais en Oh là là, Laurent, mais je sais plus lire, c'est une catastrophe, pardon. Laurent.
Je trouve ça cool que t'aies affiché Félix vraiment gratos. Parce qu'en fait, ça aurait pu passer comme une lettre à la poste.
Non seulement il vient d'arriver, en plus il a pas vu le film.
Vu, quoi.
Ok, Laurent.
Oui, bonjour.
Bonjour, comme un lundi, de quoi ça parle?
Comme un lundi, film donc japonais de Ryo Takahashi, premier film d'ailleurs, ce que je viens de vérifier maintenant. Ça raconte l'histoire... en fait, d'un groupe de personnages qui bossent dans la pub, une petite boîte de com en fait, voilà, qui occupe un petit étage dans un bureau tout simple à Tokyo et qui se retrouve en fait bloqué dans une boucle temporelle d'une semaine, boucle temporelle qui a la particularité de en fait de dont les gens n'ont pas conscience jusqu'au moment où en gros ça leur est révélé et ils arrivent en fait à en prendre conscience d'eux-mêmes. Et donc du coup c'est vrai que c'est un élément un petit peu bizarre dans les trucs de time loop où en fait là du coup ils sont au début du film, en fait on suit ce personnage là qui va se faire apprendre par d'autres personnages du bureau qu'elle est dans une boucle temporelle parce qu'elle ne s'en rend pas compte, et donc on va suivre un peu toutes les péripéties qui vont être liées à ça et comment est-ce qu'ils vont essayer de sortir de la boucle temporelle comme dans tous les films de ce genre là c'est donc un premier film japonais. Faut quand même partir du principe que les comédies japonaises, parce que c'est une comédie, sont souvent un petit peu compliquées pour diverses raisons, parce qu'ils rigolent manifestement pas trop sur les mêmes choses que nous autres, et que d'une manière générale, alors dans le cinéma japonais on va dire entre guillemets populaire, l'acting est souvent un petit peu compliqué aussi, parce qu'ils ont une façon de faire, une manière en fait de jouer qui est un peu surjouée, un peu difficile, et je trouve que le film en fait arrive à éviter ces écueils, ce qui était franchement pas... que je n'avais pas forcément vu venir, parce que à la fois on est donc face à une comédie qui est drôle, qui est bien jouée avec des vrais bons comédiens qui on font un petit peu des caisses évidemment, mais qui sur lequel ça marche, parce que ils ont un peu ce côté ridicule où parfois il y a vraiment des moments un peu de malaise ou de trucs qui fonctionnent bien, et qui en plus se paye le luxe d'être un film assez intelligent, avec un point de vue que je trouve assez malin sur la dynamique au travail et sur qu'est-ce que ça veut dire en fait de créer un groupe quand on travaille et pourquoi. En fait, c'est un film qui est assez bizarrement, parce que je l'avais pas forcément vu venir non plus, c'est un film qui est sur le monde du travail et sur ce que c'est que de travailler avec des gens, alors que c'est tout ça enrobé dans une espèce de comédie complètement délibile avec un time loop. Et franchement, je suis assez bluffé, moi, par la réussite de ce truc, parce que je trouve que ça a été clairement fait avec un tout petit budget. Il y a un décor avec 5 comédiens ou à peu près. C'est vraiment genre un film au plus simple, mais qui va vraiment chercher à construire son histoire, faire un scénario digne de ce nom, avec des comédiens qui jouent bien, avec des moments touchants, avec des trucs intelligents, etc. Il y a en fait un truc assez japonais en fait, dans le fond, où on a une vraie volonté d'artisanat, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont bien bossé, qui se sont donné du mal pour essayer de faire un truc qui tient la route et qui est amusant, où on voit qu'ils ont chopé des références quand même très occidentales, hein, parce que le time loop c'est quand même un truc très américain, et vraiment ils ont réussi à l'adapter dans un enrobage drôle, intelligent et bien fait par des bons comédiens. Donc vraiment, je trouve que c'est un peu une surprise pour moi. Je m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi bien. Clairement, ça fait un beau démarrage. Moi, je conseille aux gens d'aller voir ce film parce que c'est une belle réussite. Bah, en fait, tout simplement. Petit bémol, je dirais, le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'en effet, il y a quelques petits rebondissements vers la fin du film qui sont un petit peu tirés par les cheveux, où on sent que ça traîne, ils ont eu du mal, en fait, à sortir des trucs très, très naturels. Mais honnêtement, en dehors de ça, c'est vraiment plutôt solide. Donc, je suis agréablement surpris.
Bah écoute, une bonne surprise, une bonne comédie, foncez-y. Cette fois-ci, on va passer toujours sur de la comédie, mais en France, avec L'Esprit Coubertin.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos jeux à 0 médaille d'or.
Ouais, c'est des cons.
SMS dans le public, ça fait tutut.
Ça fait tutut dans le public. Est-ce que ça fait tutut chez nous, Félix? De quoi ça parle, L'Esprit Coubertin?
Alors, on est du coup à 10 jours de la compétition des Jeux Olympiques. C'est un fiasco, grosso modo, pour la délégation française. On n'a aucune médaille d'or, vaguement des médailles de bronze. Et tout repose sur justement un certain Paul qui fait du tir, qui est incarné par Benjamin Voisin, mm-hmm. et qui du coup est quintuple champion du monde, je crois. Enfin bref,
septuple. Enfin,
ouais, c'est un peu flou, mais bon, le mec est très fort. Et c'est un peu le seul espoir pour potentiellement justement avoir une médaille d'or, sachant que il y a toute une histoire avec la ministre des sports qui a envie potentiellement de représenter un petit peu, enfin on sent qu'il y a une histoire de copinage et elle essaye de gratter un peu l'amitié. Bref, donc il faut gagner absolument et tout repose sur Benjamin Voisin qui pour la première fois de son existence ne m'est pas antipathique et ça c'est cool. Je pense que de lui mettre un bouc et qu'il soit moche c'est pas mal, c'est le récit plutôt bien. Après bon, son personnage, est-ce qu'il est bien écrit, j'y reviendrai tout de suite en fait parce que je vais commencer par là. Je trouve le film pas très bien écrit en vrai et pas très bien réalisé. En vrai, je trouve le film très moyen. Spoiler. Et en plus, j'avais vachement envie de le voir, donc ça tombe bien. Je me suis pas du tout trompé de séance. Non, mais alors, j'ai quand même rigolé à quelques blagues. Je trouve que il y a une certaine sympathie de certains acteurs. Il y a notamment le Palmacho, les gars de Dava aussi, qui sont voilà des Instagrammeurs qui font des blagues et qui me font un peu rire. Et forcément, ils ont de la sympathie. Enfin, en tout cas, j'ai de la sympathie pour eux, donc du coup, ça fonctionne à l'écran. Après, le problème, c'est que je trouve que tout le monde est un peu dans son personnage, c'est-à-dire que eux, ils sont dans leur personnage. Je trouve que le mec du Palmacho, même si on essaye de le, enfin il incarne une espèce de judoka qui est du coup le chef de la délégation de ce que j'ai compris, qui est hyper méchant avec tout le monde et très politicien. C'est du coup Grégoire Ludwig qui l'incarne. On sent qu'il est un petit peu à contre-pied. C'est intéressant, mais le problème c'est que ça tourne un petit peu à vide parce que c'est quand même très mécanique. Je trouve qu'en fait on sent les blagues, on sent les scénaristes qui s'amusent à créer par exemple un personnage pour Benjamin Voisin qui est très mal dans son corps, qui est vraiment focus sur le travail et qui progressivement en fait va découvrir la vie, découvrir les femmes, découvrir voilà et de l'alcool. Et en fait malheureusement tout ça manque de cœur, je trouve, ça manque de quelque chose d'un peu incarné. Voilà, je trouve que c'est vraiment tout est très figé et du coup ça prend pas complètement. Il y a encore une fois quelques blagues qui m'ont fait rire, mais je trouve que l'ensemble en fait tourne un peu à vide. Malheureusement, et surtout j'arrive pas à comprendre vraiment de quoi veut parler le film en dehors de son aspect comique et absurde. C'est quand même bien quand un film raconte quelque chose. En plus là on sent qu'il y a des espèces de dynamiques et des questions sur le racisme, sur la France, etc. Mais en fait le problème c'est que c'est tellement enrobé dans un truc qui ne tient pas du tout, et je trouve que ça fait tellement on essaie de cocher les cases pour faire une comédie qui est quand même rassembleuse et qui a quand même un espèce de fond politique, que tout sonne faux. Et je me demande même à quel point ça je sais pas comment dire. Je me demande à quel point en fait ça fait pas du tort aux sujets qui sont traités de les traiter avec autant de légèreté, en tout cas avec autant de faiblesse et de vide. Et je finirai juste par dire que je trouve que la mise en scène surtout est nulle. Enfin vraiment il y a rien du tout. On est que sur des plans serrés poitrine sur les comédiens qui font des blagues, et je trouve ça encore une fois dommage. Alors je sais que les décors ont l'air super moches et du coup peut-être qu'on a pas envie de filmer l'espace, mais essayez de trouver quelque chose pour juste même faire du comique visuel, parce que c'est la comédie pour moi, c'est au cinéma en tout cas, c'est pas que des blagues et en tout cas des dialogues qui font mouche. Et donc du coup voilà, ça je trouve que c'est vraiment dommage. Surtout que je crois que le Réal a fait la Fémis, donc c'est quand même censé être une grande école de cinéma qui forme des grands techniciens.
Et c'est le co-créateur de Parlement aussi.
Et c'est aussi, voilà, ça je savais pas du tout.
Co-réalisateur de Parlement.
Mais donc voilà, j'avoue que, en fait, si le film passe un dimanche soir à la télévision, pourquoi pas, c'est-à-dire qu'on peut se laisser prendre un peu dedans, et ça peut être assez rigolo, on va dire, mais payer pour voir ça, je trouve, et aller au cinéma et dans une démarche, aller voir un film comme ça, clairement non, enfin vraiment, je trouve que c'est trop faible pour vraiment mériter votre attention.
Bien, moi, je me permets de noter quand même l'utilisation du terme télévision en entier en 2024. Alors, ça, c'est rare. C'est rare et c'est beau, c'est beau, quoi.
Eh bien, vous attendrez 3 ans pour découvrir l'esprit Coubertin à la télévision après la chronologie des médias. Manon.
Ouais, je partage complètement l'avis de Félix.
J'avais promis une émission de duel, là, il faut se battre.
Non, pas là-dessus, j'avoue. C'est une comédie d'anticipation à vraiment très très court terme, parce que les jeux, c'est dans quelques mois. Donc, c'est un truc qu'on voit peu, et moi, j'étais assez curieuse du film. Je trouve qu'il y avait un énorme potentiel, notamment en termes de timing, d'actualité, mais surtout, en fait, l'arène du village olympique, je la trouve trop intéressante, parce qu'il pouvait y avoir plein de choses dedans, quoi, à la fois l'enfermement, le stress, les égos, la compétition et tout, qui était bien pour une comédie. Je vois tout à fait la note d'intention en fait derrière ce film, mais en fait j'ai pas été super convaincue. Comme tu disais, c'est notamment parce qu'il y a pas de mise en scène, quoi. C'est d'une platitude vraiment sans nom. Je pense qu'il aurait pu faire aussi quelque chose de, enfin, une espèce de satire politique, en plus, qui est donc un truc qu'il maîtrise a priori, beaucoup plus féroce sur plein de choses, sur les médias, sur le chauvinisme français, sur plein de choses. Et en fait, il y a un espèce de mélange des genres qui est assez cool. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un côté très comédie burlesque, je pense que, enfin, très débile, très régressif. Je pense qu'il aime bien Adam McKay, Will Ferrell, Steve Carell et tout, qu'on voit pas beaucoup en France, mais il pousse pas en fait les curseurs assez loin pour que ce soit bien. Moi, il y a juste un truc qui m'a... J'ai globalement jamais ri, sauf sur les deux journalistes de BFM et les bandeaux qui défilent en dessous. C'est assez marrant. Je trouve que les personnages sont assez caricaturaux. Le puceau inadapté socialement versus son voisin de chambre qui baise, qui fume et qui boit. C'est quand même des dynamiques qu'on a quand même beaucoup, beaucoup vu. Après, de faire appel à Benjamin Voisin, qui est vraiment genre le beau gosse du cinéma d'auteur, et de le mettre dans ce rôle de puceau hyper chum, c'est pas mal. Pareil, Emmanuel Berco, on la voit assez peu en comédie, donc je trouve que le casting, il a tenté quelque chose en tout cas. Là où je sauve le film, c'est que je trouve qu'il y a un vrai amour du sport. Ils prennent le tir, qui est quand même un sport complètement absurde, mais ils le font bien, les séquences elles sont bien, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé. Et heureusement, ils en font pas en plus un guignol en tir, parce que là ça aurait été vraiment lourd. Et le décalage entre ce sport hyper viril qu'ils pratiquent hyper bien et son côté complètement inadapté, c'est assez intéressant. Je trouve que le côté des décors, que tu disais qu'on n'a pas envie de les filmer, en même temps il y a un côté très carton-pâte et du coup ça fait vraiment genre petit théâtre totalement débile qui est assez intéressant.
Qui est probablement assez juste en fait.
Ouais, complètement. Donc voilà, assez cool d'avoir ce genre de proposition. Je vois la tentative derrière, mais moi j'ai pas ri et c'est quand même bête pour une comédie.
Effectivement, une comédie qui ne fait pas rire, c'est dommage. On a vu Emmanuel Berco sur Amazon Prime dans Sentinelle, une autre très mauvaise comédie. Okay. Laurent.
Écoute, moi je vais un petit peu défendre en fait tout ça parce que même si je suis globalement d'accord avec ce que vous dites, hein, c'est faible quoi globalement. Je pense que le plus gros problème en réalité c'est un problème d'écriture. Ça fait pas beaucoup de travail quand même derrière tout ça. Mmh. On a essayé de caler un peu des vannes avec des personnages et puis basta. Il y a pas, le film avance jamais vraiment. Et la promesse du film commence à être délivrée au bout de plus de la moitié. Enfin, il y a
presque sur la scène de fin. Enfin, moi j'ai juste dit ah mais le film parle de ça.
Il y a beaucoup de trucs en fait qui vont pas. Enfin, clairement je trouve que ça marche pas. Mais il y a quand même des choses qui me sont sympathiques, on va dire. Je trouve qu'il y a, il y a, moi j'ai une espèce de sympathie pour ce truc parce que c'est pas un film, enfin je sais pas comment dire, c'est pas un film qui se la raconte quoi. Il y a un truc, il y a pas de volonté de clin d'œil et d'ironie et de méta et de machin comme ça. Il y a un truc. Bah non, justement, je trouve pas trop.
Non, mais heureusement, tu vois, si les comédies françaises commencent à faire ça, c'est la fin du cinéma. Quoi.
tout le monde fait ça. Donc, bon, enfin, tu vois, c'est dans le genre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a quand même des vraies bonnes vannes. Moi, je trouve que ils ont hyper bien tiré profit du manque de charisme de Benjamin Voisin, qui est quand même genre, qui est quand même vraiment, bon, voilà, un mollusque, mais et qui là-dedans, du coup, est incroyable parce qu'en fait, ça reste un bon acteur. Moi, je trouve qu'il a zéro charisme, mais c'est quand même vraiment un bon acteur. Et donc je trouve qu'il y a vrai des vrais bons moments. En effet, tu as cité les journalistes de BFM qui sont les gens de Dava, Adrien Chakalpopoulos et Sacha Béard, il me semble, que j'aime beaucoup. Il y a vraiment des moments moi qui m'ont fait beaucoup rire, de quiproquo vraiment débile où le personnage fait n'importe quoi parce qu'il est complètement obsédé sur le fait qu'il y a un étranger dans sa chambre et donc ça donne des moments vraiment gênants. Il y a des trucs je trouve assez réussis, un peu féroces. C'est un peu drôle, mais dans l'ensemble, quand même, tout ça patauge et globalement, on s'ennuie pas mal. Même si moi, j'ai rigolé à quelques vannes, probablement un peu plus que toi, Manon, parce qu'il y a 2-3 trucs qui marchent sur moi. Et je trouve que dans le fond, c'est des films qu'on voit pas beaucoup en France, en fait. Il y a un côté un peu, on va dire, rafraîchissant, même si, bon, je sais pas, c'est pas vraiment le bon terme pour le film, mais il y a un truc un petit peu inattendu et auquel voilà, je trouve. Plutôt solide, mais c'est juste bosser un peu plus les gars, hein. faites un scénario, essayez de raconter des trucs, c'est peut-être un peu chiant, mais c'est pas hyper compliqué, il y en a d'autres qui arrivent, par exemple des japonais.
Mais pas surtout donner, pardon je t'interromps, mais donner juste une bonne idée, pour moi c'est pas, enfin effectivement ça a pas l'air suffisant.
Non, c'est sûr
que c'est une bonne idée de faire du cinéma sur les JO, l'année des JO, mais c'est facile.
Il y a une bonne idée, il y a quelques bonnes vannes, il y a des bons acteurs, il y a quelques scènes qui fonctionnent, mais en fait je suis d'accord, il y a pas beaucoup de mise en scène.
Il y a pas beaucoup de cinéma.
Tout ça est quand même un peu léger, alors qu'en fait un peu plus de taf, il y a pas besoin de plus d'argent quoi, juste un peu plus de taf, et je trouve ça dommage de rater ce coche là.
Mais en fait je trouve que comme pas mal de comédies qui sortent récemment, on ressent un peu l'aspect internet, je trouve, et d'ailleurs évidemment il y a des gens du Palmachot, des gens qui viennent d'internet. là-dedans et dans l'écriture. Et du coup, ça donne un côté un peu rafraîchissant parce que il y a un sens de l'absurde et potentiellement un peu d'humour noir, limite, qui du coup est dans ces genres de comédies et qui n'était pas forcément dans les comédies avant. Mais malheureusement, je trouve que tu sens aussi que le procédé, justement, tourne un peu à vide, fait très sketch internet. Et je pense que c'est ça qui empêche justement le film d'être vraiment incarné par un désir de cinéma plus que ça, quoi.
Bon, eh bien, l'esprit Coubertin, vous l'aurez ou vous ne l'aurez pas, mais peut-être que vous verrez le film. En tout cas, là, on va changer radicalement d'atmosphère. On va partir vers New York. On va partir vers, il me semble, du BDSM. Je ne suis pas très sûre. Manon et Félix vont nous expliquer tout ça dans tous les cas. On écoute la bande-annonce de La vie selon Anne de Johanna Arnaud.
Tell me what you like.
I like when you tell me what to do.
I know that. What else?
I don't know. Can you just tell me what you want me to do?
I'm telling you what to do right now, and you're not doing it.
Eh bien, Alban vient de demander si c'était bien. On va le savoir tout de suite. Manon, est-ce que c'est bien, La vie selon Anne, et de quoi ça parle ?
Alors d'abord, de quoi ça parle ? C'est la vie de Anne, qui est une trentenaire new-yorkaise qui pratique les relations BDSM et dont en fait on va suivre son quotidien à la fois intime, sexuel, familial, amical, professionnel, dans une sorte de succession de scènes qui sont chapitrées selon les différents masters, donc c'est les différents maîtres avec qui elle pratique le BDSM.
Ok.
Ce film est assez indescriptible, notamment le ton est assez indescriptible, je trouve, de ce film. Mais moi, je crois que j'ai bien aimé cette espèce de flottement. En fait, c'est pas une comédie, c'est même pas franchement marrant. Mais je trouve qu'il y a quand même de l'humour dans ce film. Notamment, je trouve qu'elle a quand même donc c'est la réalisatrice, c'est également l'actrice, c'est également la scénariste, et c'est également la monteuse du film.
Mmh, c'est sa vie.
Alors, elle dit que c'est une autofiction, mais que c'est pas autobiographique. Je crois un truc comme ça. Bref. Mais en fait, je trouve qu'elle a plutôt bien réussi le montage du film qui est assez intelligent. Il y a plein de sortes de ruptures de ton comme ça qui moi je trouve permettent de faire jaillir un peu d'humour de tout ça. Elle a une sorte de distance vraiment extrême avec son personnage et son sujet, alors qu'elle incarne quand même ce personnage, qui pourrait donner un film hyper désincarné, mais voilà, je trouve que encore une fois, ça donne une espèce de ton assez comique que j'ai bien aimé. Il y a des situations qu'elle laisse s'étirer vraiment genre à l'infini jusqu'à ce que ça devienne extrêmement inconfortable, que ce soit des scènes de sexe ou pas forcément. Il y a notamment une scène où elle verse une espèce de bouillasse absolument immonde, genre de plat à réchauffer dans sa... Et pareil, ça dure genre 2 minutes et bref, ça te met dans un espèce d'état très chelou.
C'est Jeanne Dillman.
Ouais, il y a un peu de ça. Donc voilà, plein de moments gênants, de longs plans séquences, de scènes BDSM qui ne sont pas du tout ce que tu imagines du BDSM, on dirait presque des jeux d'enfants un peu bizarres. Enfin bref, c'est tout ça est assez inconfortable, mais moi je crois que j'ai quand même bien aimé ce côté inconfortable. Je sais pas exactement ce qu'elle veut nous dire. En fait, elle fait clairement un parallèle entre donc la soumission qu'elle subit dans son travail, qui est vraiment un bullshit job, voilà, et la soumission qu'elle choisit dans ses relations sexuelles. En même temps, je pense que c'est pas tout à fait le propos du film, parce que souvent on parle du BDSM comme une sorte de liberté, d'émancipation féministe, féminine et tout. Là, en même temps, elle a l'air également de s'emmerder dans ses relations sexuelles. Donc, bon, bref, je sais pas exactement ce qu'elle nous dit. Tout le monde qu'elle décrit est assez triste et assez ennuyeux. Genre, même New York est moche et triste dans ce film-là. Mais en même temps, je sais pas, c'est pas... Il y a rien de politique là-dedans. Puis je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez sincère, assez courageux, parce qu'elle se met donc en scène et elle s'épargne pas. Ça m'a vraiment fait penser à Lena Dunham et à Girls, mais sans le côté revendicateur que peut avoir Lena Dunham. On a l'impression qu'elle joue dans ce film parce que c'était plus simple pour tout le monde, et voilà. Donc voilà, et en même temps, Girls, c'était il y a 15 ans. Ce film ne propose pas grand-chose en plus, ne renouvelle pas grand-chose. Donc il y a un côté aussi un peu daté et où on ne comprend pas nécessairement l'intérêt de ce film. Mais bon, enfin, bref, voilà, j'ai aimé ni j'ai pas aimé ce film.
Non, parce que tout ce que tu as dit donnait pas du tout envie d'y aller. Puis tu as dit Girls de Lena Dunham et tout de suite, moi, j'ai été un peu émoustillée par ce que tu disais, quoi. Félix, ce film sur le BDSM, qu'en penses-tu ?
Qu'est-ce que j'en pense ? Mais en fait, c'est vrai que c'est un film qui est très désagréable, donc c'est compliqué de le conseiller, c'est compliqué de prendre son pied devant. Je pense que c'est fait exprès, mais du coup, moi, j'ai toujours un peu du mal avec ce genre de film où la démarche, clairement, c'est justement de faire chier le spectateur et de montrer à quel point la vie, c'est nul et il se passe rien et c'est plat. Et en fait, je m'attendais
Est-ce
un
que
peu.
Tu parles de Yorgos Lanthimos.
Mais justement, en fait, c'est très bonne lancée, merci. On sent les influences. Je trouve qu'en termes de ton, justement, peut-être un des gars qui est le plus proche du travail de Johanna Arnaud, c'est justement Yorgos Lanthimos. D'ailleurs, même en termes de dispositif filmique, c'est des courses focales en plan fixe, très très peu de plans, des décors blancs, enfin clairement tirés d'une exposition contemporaine new-yorkaise, et on sent vraiment cette espèce de volonté d'épure pour avoir juste un espèce de travail purement corporel, montrer des corps dans leur intégralité sans du tout les érotiser ou quoi. Mais en fait, je trouve que là où Lanthimos est très très fort pour déjà instaurer beaucoup plus de malaise que j'en ai ressenti pendant ce film, et aussi même pour travailler, je trouve, le corps dans l'espace, qui est quand même un peu la grande thématique de son cinéma, là j'avoue que j'étais un petit peu frustré, parce que en dehors justement des 5 premières minutes où je me suis dit waouh, ok, c'est courageux, il y a une vraie dévotion pour le film, et potentiellement effectivement quelque chose d'assez intéressant sur la désexualisation complète du BDSM. En fait, je trouve que le film tourne très rapidement à vide parce que le dispositif n'évolue pas, et surtout, il filme tout de la même manière. Et ça, même si évidemment, il y a des parallèles très théoriques qui commencent à jaillir dans le cerveau du spectateur en mode « Ah oui, mais en fait, la vie du travail, c'est comme sa vie sexuelle, c'est comme sa vie avec ses parents, et en fait, il se passe rien », t'as quand même envie à un moment donné qu'il y ait une rupture, qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi, parce que en plus, elle, dans sa vie personnelle, en tout cas de ce que j'ai compris de la trajectoire du personnage du film, elle rencontre justement, enfin, elle est avec un espèce de vieux gars très bizarre avec qui elle entretient un peu une espèce de relation très étrange.
Qui est joué par l'acteur qui joue Max Medina dans Gilmore Girls, pour celles et ceux que ça intéresse. Je viens de voir l'affiche et je suis assez outré de ce changement de personnage. Bah,
voilà, qui voilà. Pour le coup est très convaincant dans le film. Et en fait, très rapidement, je spoil pas trop, mais elle va changer un petit peu de partenaire, et vers le milieu du film, elle va tomber justement sur un gars qui pour le coup ne pratique pas du tout le BDSM, et qui au contraire est extrêmement bienveillant, extrêmement gentil, etc. Et en fait, pareil, cette relation est filmée de la même manière. Alors, est-ce qu'elle essaie de nous montrer qu'en fait, même cette relation, elle s'ennuie, etc. Mais je trouve que de ne pas changer à ce point-là de dispositif, de tout filmer de la même manière, en fait, ça écrase complètement, justement, le potentiel d'appropriation, en fait, du spectateur des images auxquelles il est confronté. C'est-à-dire que vraiment, moi, je n'arrive pas à comprendre où est ma place dans ce film, comment je dois justement traiter ce qu'il m'a raconté. Est-ce qu'il y a vraiment déjà même un sous-texte, ou est-ce que je dois chercher quelque chose de tout ça? Enfin voilà, je trouve que c'est un film qui est très bizarre. Alors peut-être que du coup c'est une proposition de cinéma intéressante, parce que justement ça met le spectateur dans une certaine émotion et on n'arrive pas trop à gérer le film en tant que tel. Mais j'ai quand même un sentiment de vanité quand je regarde ce genre de truc. J'ai vraiment du mal à trouver ça réellement intéressant, surtout qu'en plus en termes d'humour, bon c'est pareil, on est très proche de Woody Allen, mais je trouve que ça fait quand même un peu moins mou. Je trouve que en fait le côté très rupturé de la narration, où ça, on dirait un peu des post-it en fait d'idées comme ça par-ci par-là, et intéressant, parce que du coup effectivement c'est pas une narration classique, et en même temps comme on te présente juste la scène avec la vanne et l'espèce d'idée un peu marrante qu'elle s'est notée dans son carnet, bah ça devient tellement outrancé que du coup j'ai du mal à croire en cette réalité, et du coup vraiment à rigoler avec elle, ou en tout cas à trouver ça pertinent. Donc voilà, je trouve que en fait c'est un film, j'ai l'impression, qui critique l'ubérisation de la société et le côté même art contemporain, justement extrêmement arty New York, et qui ressemble à ça, et du coup j'ai l'impression qu'il s'annihile tout seul, et je voilà. Donc c'est pour ça que soit c'est du génie et j'ai rien compris, soit en vrai de vrai c'est un peu une escroquerie et c'est un peu nul. en vrai ça l'est, moi je me suis fait super chier, hein,
mais t'as été hyper bienveillant, je trouve, et si je peux me permettre, le titre du film en anglais, si on le traduit, c'est le sentiment que le temps de faire quelque chose est passé, donc je pense que ça aide beaucoup à comprendre si c'est plutôt une arnaque ou plutôt un chef d'œuvre incompris.
En tout cas, ça décrit mieux le film que la vie selon
lui. Oui, mais ça c'est le distributeur français, je pense, qui s'amuse un peu.
En fait, il y a grave un air aussi du film avec Daisy Ridley, là, pareil, qui avait un titre catastrophique en français.
La vie rêvée de Miss Fran.
Ouais. Voilà, bah.
Mais j'ai pensé à ça pendant que t'en parlais, sans dire la version OnlyFans de La vie rêvée de Miss Fran.
Et ben, je pense qu'on va retitrer le film. Voilà. Et bien, encore une fois, on va complètement changer de décor, on va partir en France, et vous allez m'excuser, je ne sais plus le nom de la région en France où ça se passe, mais c'est moche, pour voir Un homme en fuite de Baptiste Debrou.
Johnny Laforge, le leader présumé des troubles qui secouent la ville, est toujours en cavale après le braquage d'un fourgon hier en fin de journée.
Donc on a un mort et un blessé.
T'es parti de la grève générale à la FGR, la fonderie.
Yuri, de quoi ça parle, cet homme en fuite? On a que des titres assez évocateurs ce soir.
Alors, ça parle d'un homme en fuite qui est Pierre Lottin, qui donc joue un personnage qui s'appelle, ce n'est pas une blague, Johnny Laforge. Voilà. qui donc a braqué un fourgon et s'est barré avec 4 millions d'euros. C'est pas de chance parce qu'il a buté un des convoyeurs. Du coup, on le cherche et ce Johnny Laforge est un peu, par ailleurs, une figure locale et assez proche d'un mouvement syndical, parce qu'on est dans un film français, donc il y a une usine en grève. Léa Drucker est donc dépêchée sur les lieux pour enquêter et en parallèle débarque Bastien Bouillon, qui donc va essayer aussi de retrouver Johnny Laforge, parce qu'il se trouve que ce Johnny Laforge est son ami d'enfance et que leurs chemins se sont un moment séparés autour d'éléments tragiques. Voilà. Ça me fait penser à cette phrase dans La Cité de la Peur, où un critique dit un moment à Chantal Lobby: je n'écris rien sur ce film, c'est une merde. C'est un peu ce que j'ai ressenti en sortant, c'est-à-dire que le film commence et vraiment au bout de 5 minutes j'ai su que ça allait être horrible, et c'est terrible parce que c'est un film qui commence en fait comme un vrai polar, comme un vrai thriller, et on se dit bah super, ça va être un truc de cavale, on va chercher ce mec, il va y avoir une enquête, il va y avoir un truc, et c'est un peu le même problème que dans Première Affaire. Pas du tout. On se concentre sur l'histoire d'amitié entre Bastien Bouillon et Pierre Lottin. Pourquoi ils étaient copains alors qu'ils venaient de classes sociales différentes. Pourquoi ils voulaient Ken, la même meuf qui est jouée par Marion Barbeau, qui est donc la leaduse du mouvement syndical. Et là, t'as envie de dire au mec, quand même, les gars, c'est Marion Barbeau. Genre, à quel moment cette meuf-là est syndicaliste? C'est pas possible. Elle est ballerine, elle est pas syndicaliste. S'il y a un truc où ça marche pas, alors pour ailleurs, c'est pas de sa faute en fait, c'est juste un mauvais emploi. Et là où le film vraiment sombre dans la catastrophe absolue, c'est qu'en plus de raconter toute son histoire en flashback, les flashbacks arrivent dès la minute 3 du film, et t'es genre putain, sérieux quoi, enfin c'est pas possible. C'est que Bastien Bouillon et Pierre Lottin jouent leur propre personnage en flashback, alors qu'ils sont censés avoir dans ces flashbacks entre 17 et 18 ans. Donc imaginez Bastien Bouillon avec une perruque
coupe au bol
portant une veste en jean de lycéen avec un sac à dos Eastpak, assis dans une salle de classe.
Et les autres acteurs, ils ont vraiment 15 ans pour le coup.
Et les autres acteurs ont vraiment 15 ans, et lui, il est là, et on dirait un pédo. Quoi. Je disais, mais c'est pas possible, en fait, ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Tu mets Bastien Bouillon qui a 45 ans, qui a un visage de mec de 45 ans.
Mais c'est un espoir
du cinéma. Non, mais d'accord, mais il a un visage qui est ridé, enfin, il a un mec qui est marqué par son âge, et c'est ok. Mais donc, le foutre dans une salle de classe avec des mômes, tu dis, mais. Enfin, pardon. J'entends que peut-être dans le Grand Est il y a des histoires un peu étranges mais ça c'est pas possible.
Après, je pense que tu le vieillis un peu, je suis pas sûr qu'il a 45
ans. Il avait 42 ans au moment de son César, donc je crois il me semble, donc je le vieillis pas beaucoup. Alors vous pouvez fact-checker en live, mais il a plus que 40 ans, c'est sûr. Mais en tout cas quand tu le vois assis, enfin on dirait, moi je croyais que c'était une vanne quoi, je pensais à 38 ans, pardon, donc il a pas du tout 45 ans, mais en tout cas il a pas du tout 17 ans, voilà. Je campe sur mes positions, il n'a pas 17 ans, et ce n'est pas parce que vous l'habillez comme un mec des années 80, alors que c'est censé se passer comme dans les années 2000, ces flashbacks. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est genre qu'on est dans les Sous-Doués et qu'ils sont là, genre ils vont jouer au flipper en train de boire une suze, quoi. Et ça, c'est.
Tu vends extrêmement bien le film, attention.
Et en fait, comment dire, le film s'engouffre de catastrophe en catastrophe, et par ailleurs, moi, un truc qui m'a. J'ai très très vite décroché, je rigolais comme dans la salle, j'étais un peu le seul. C'est que Léa Drucker qui joue la gendarme, du coup en fait il y a un truc où dans ce village les gens ont une espèce d'amnésie sélective, c'est-à-dire que tout le monde visiblement se connaît, mais quand il s'agit d'identifier une meuf qui est une leader syndicale et qui est liée aux deux protagonistes de l'affaire, les mecs la trouvent sur une vidéo sur internet qui est postée sur les réseaux, et elle me dit qui est-elle ? Trouvez-moi qui elle est. Et là, il y a 10 minutes d'enquête du coup qui se déroule, alors que globalement, il suffit d'aller dans le PMU du coin pour savoir son nom, vu que la meuf, elle habite là depuis 35 ans. Voilà, c'est malheureusement complètement raté. Ça aurait pu être un super thriller, un super polar. Malheureusement, ils ont choisi d'en faire une espèce de semi-film social de mauvais goût en plus politiquement. Et voilà, malheureusement, c'est très mauvais. Je suis désolé. Et en fait, Bastien Bouillon dedans, je suis désolé, il est mal employé. C'est une catastrophe.
Bien, merci Yuri. Et toi Rita, qu'est-ce que tu en penses? Je me demande. Alors, bon.
C'est... Moi j'y croyais à cet échange-là. Je suis là, waouh, putain, waouh, il y a plusieurs personnes en fait. C'est incroyable.
Bon, tu as dit un film français, c'est un film où une usine est en grève. Alors, moi j'avais compris que les films français c'était les films haussmanniens. Donc, il va falloir que tu nous expliques mieux, Yuri.
Alors, il y a drame haussmannien et film social. Enfin, voilà. C'est quand même un peu les deux médailles d'une même pièce.
En fait, le truc, c'est que c'est un film ultra maladroit et plutôt médiocre. Moi, je prends au sérieux ce que tu dis. Ouais. C'est un film plutôt médiocre, mais je sais pas pourquoi j'ai un peu envie de pas mal parler. C'est sûrement parce que c'est un premier film, donc je vais sûrement faire du nivellement par le bas. Je m'en excuse. Et je vais commencer par ce qui va pas. Pour être bienveillante ensuite, l'évidence c'est l'écriture de tous les personnages avec celui de Marion Barbeau en tête. Effectivement, elle n'est pas aidée, mais elle joue aussi très mal. Son personnage est d'un creux affligeant.
Mais elle n'est pas là. En fait, c'est pas elle quoi.
Mais oui, mais en fait, moi je pense qu'il aurait dû aller jusqu'au bout de son histoire, à savoir une histoire homoérotique. Je ne comprends pas l'intérêt d'ajouter Marion Barbeau dans cette histoire pour faire genre c'était une amitié quand ils étaient enfants, alors que clairement il y en a un des deux qui est amoureux de l'autre.
Et en plus, ça donne une espèce de scène de triangle amoureux ridicule, oui, dans un bar où genre il comprend que
Challengers.
L'un a couché avec l'autre et il y a une espèce de montée en puissance de la musique, mais qui fait genre. Je vais fumer une clope et il sort du bar. Comme
oui,
ça,
et du coup, juste après ça, il y a en fait le point culminant de leur amitié qui fait que tout va foirer et limite c'est à cause de ça. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Bon, autant Bastien Bouillon ado avec une coupe au bol, c'était un de mes fous rires en salle cette année, honnêtement. Pas le meilleur, il y a quand même eu le film Frère. Bon, passons sur ce film que vous m'avez encore une fois censuré, je n'ai pas pu en parler ici. On sent la profonde affection du réal pour ce qu'il filme. Il est visiblement originaire de cette région et c'est un premier film et on sent toutes les complexités qu'il veut essayer de laisser transparaître sur le fait de partir, revenir de là où on vient, enfin des trucs très classiques et clichés du cinéma français, comme tu disais, un peu de lutte des classes, enfin bon, tout ça, il essaye de le mettre dans le personnage de Léa Drucker qui joue une flic, effectivement. Bon, elle est là, hein. Moi j'aime bien Léa Drucker, mais son père.
Mais elle a l'air de découvrir son personnage au,
oui,
fur et à mesure
ça.
Du film, en fait.
C'est ça, je l'ai entendu parler de son personnage, et pour elle, c'est vraiment, elle a dit j'ai voulu mettre du conflit dans mes regards et tout, d'accord. Bon, en tout cas, je trouve intéressant ce qu'il raconte au départ, du retour, des conflits, etc. Pour autant, je trouve que les intentions sociales sont tellement pas traitées, c'est censé être un film aspect solidaire, Robin des Bois, mais on y croit absolument.
Produit par la BNP quand même.
Oui, c'est vrai. Au début, il y a le logo de la BNP, c'est assez légendaire. On y croit vraiment pas du tout parce que c'est pas assez développé. C'est un film, j'ai écrit en demi-teinte dans mes notes, finalement plutôt en teinte mais sombre quoi.
La teinte de l'image est quand même marronasse.
Alors
quoi.
Moi j'allais dire, malgré une photographie plutôt intéressante, pas une mise en scène, mais une photographie que j'ai trouvée plutôt cool, qui m'a rappelé une série récente, Polar Park sur Arte, qui est infiniment mieux, mais il y a ce côté de pas filmer juste Paris, Marseille ou la Côte d'Azur, de filmer des lieux en France que moi je ne connais pas en tant qu'étrangère, donc laissez-moi me faire mon France,
oui,
Cinématique
Univers.
Mais
c'est un polar, donc il pleut quoi, tu vois, et il fait gris.
2000%, mais c'est la forêt des Ardennes, il y a un vrai truc chelou dedans que je trouve qu'il réussit à mettre c'est une forêt où les gens si tu te paumes dans cette forêt, tu peux te perdre pour de vrai. Moi j'y ai cru et j'y ai peur.
Et tu te réveilles et t'as 15 ans de moins, t'es dans une classe de.
Il est vrai. Enfin voilà, je trouve que c'est une imagerie du cinéma qui peut être intéressante, qui est plutôt américaine sur l'isolement, la lutte sociale dans les zones oubliées. Voilà. Ça pourrait être intéressant, mais c'est très maltraité. C'est un film plutôt balbutiant qui j'ai pas envie de couler parce que je sens les bonnes intentions. On tire pas sur l'ambulance et pour autant, je suis curieuse de ce qu'il va faire ensuite, le réalisateur, s'il change de scénariste et qu'il peut-être essaye de ne plus faire de flashback et plus jamais de caster Bastien Bouillon pour jouer des adolescents. Voilà. Merci Rita. Maintenant, on va passer au dernier film de la soirée. Et quel film ? Et quel film ? C'est le moment pour Manon et moi de vous parler de The Idea of You de Michael Showalter et on écoute la bande-annonce.
How did you guys meet? We need to know the story.
We met at Coachella.
Hi.
Hi.
This is your trailer?
Yeah, I'm in the band. We're performing on the main stage.
August Moon?
Yeah. I met someone tonight. I feel a little inspired. This one's called Coachella.
On entend tout ça et on a tout de suite envie de rentrer dans le film, Manon.
Donc The Idea of You, c'est l'adaptation d'un roman qui porte
sans transition.
D'une auteure qui s'appelle Robini Lee. Qui, alors, tu vas m'éclairer, Rita. Moi, j'avais compris que c'était une supposée fanfiction sur Harry Styles, mais en fait, je crois que c'est avéré. Ce roman est vraiment une fanfiction.
Ah oui, okay. À 2000%. En fait, l'autrice, elle écrivait beaucoup de fanfiction. Et en fait, celui-ci en particulier a attiré l'attention d'une maison d'édition, comme beaucoup, comme After, par exemple, qui est aussi une fanfiction adaptée d'Harry Styles. J'espère qu'il a un bon psy. Et donc, ça a été adapté en bouquin. Suite à quoi, ça a été récupéré par, je crois, la boîte de prod de Anne Hathaway, qui l'a produit et joue dedans.
Ok, d'accord. Donc voilà. Ouais. Parce que quand on a commencé à parler de ce projet, j'avais l'impression que sur Twitter, on me disait, oh là là, mais c'est inspiré de Harry Styles et Olivia Wilde.
Complètement Harry Styles.
100%, ok. Et donc, l'histoire, c'est Solène, qui est une galeriste de 40 ans, qui va tomber amoureuse, et réciproquement, de Hayes, qui a 24 ans, qui est le leader d'un boys band qui s'appelle August Moon, donc clairement les One Direction, à Coachella, où Elle accompagne sa fille et ses amis. Et voilà, ils vont avoir une sorte de meet cute dans les toilettes, machin. Et puis après, ça va être...
Dis comme ça.
Enfin, dans la toilette slash la caravane de Hayes. Et après, ça va être donc l'histoire de leur relation qui, forcément, va être tumultueuse. Alors déjà, c'est la base de la base normalement dans les comédies romantiques, mais là c'est cool de voir deux personnages qui ont une vraie alchimie, contrairement à d'autres comédies romantiques sorties récemment sur les plateformes, genre une avec Reese Witherspoon et Ashton Kutcher.
Nul.
Là, ils ont, je pense, les deux acteurs globalement le même écart d'âge dans la vie, mais vraiment, je trouve qu'ils ont une vraie alchimie, ils sont bons dans leur rôle, ils font le taf sérieusement, tu sens qu'ils sont pas juste là pour cachetonner et c'est cool. Moi, j'y connais rien en fanfiction, j'en ai jamais lu, mais j'ai quand même l'impression que ça... que ça twiste bien, que ça reprend ces codes-là. Il y a pas de cynisme vis-à-vis de ce genre. Enfin, c'est à la fois premier degré et à la fois c'est assez bien fait pour que ce soit pas genre cheesy, gênant. Voilà, tellement c'est mièvre quoi. Je trouve ça presque crédible. Enfin, moi j'ai trouvé ça super jouissif et j'ai vraiment pris un plaisir premier degré à regarder ce film. Je trouve que ça soulève quand même mine de rien quelques petites questions sur voilà refaire sa vie quand on est une femme de 40 ans divorcée. Ce que nous on s'autorise, ce que la société nous autorise. Là, forcément, c'est passé c'est vu via le miroir de lui qui est extrêmement célèbre, donc forcément il y a un autre prisme derrière ça. Mais voilà, je trouve que ça appuie pas non plus trop ces questions-là parce que ça reste quand même une comédie romantique, mais c'est, l'équilibre est assez réussi et tout ça reste plaisant. J'ai un gros bémol sur la relation entre, enfin, mère-copine avec sa fille. Alors elle l'a eu très jeune et tout, mais là vraiment c'est complètement poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'elle est ado, elle apprend via les tabloïds que sa mère a une relation avec le leader, enfin un mec dont elle était super fan quand elle était enfant, et elle a une réaction de bienveillance, de tolérance vis-à-vis de ça, voilà. Ça, bon, impossible, mais bon, basta. Et je trouve que Anna Tawai est super, on est toujours super contente de voir Anna Tawai, d'autant plus dans les comédies romantiques, mais... Là, en fait, elle est tellement belle, elle a tellement un bon chirurgien aussi, je pense, qu'en fait, physiquement, on dirait pas qu'ils ont autant d'écart, quoi. Et je trouve que quitte à traiter ce sujet, autant prendre une actrice qui a 40 ans et qui fait 40 ans pour que, voilà, que ce soit aussi un peu incarné jusqu'au bout le propos. Mais bon, c'est une comédie romantique hollywoodienne, faut pas trop en demander. Mais voilà, vrai kiff devant ce film pour ma part.
Bah écoute, je trouve ça très bien d'avoir le point de vue de quelqu'un qui ne lisait pas de fanfiction. Maintenant, le point de vue de quelqu'un qui a beaucoup lu de fanfiction, notamment sur les One Direction. Moi, j'étais au Stade de France en 2013 à 13 ans pour voir Harry Styles, notamment dans les One Direction. Alors, on pense à Roman qui a beaucoup aimé le film ce soir. Moi, je pense que Harry Styles est un objet de fascination qui atteint des degrés de type Marilyn Monroe, dans le sens où je pense que même quand il sera mort, il y aura des choses écrites sur lui et sa vie. C'est pas forcément positif pour lui, mais en l'occurrence ici, malgré le fait que c'est un film visuellement ignoble, avec aucun travail de mise en scène ou de lumière, c'est dramatique ce stade d'abandon. Et d'ailleurs, c'est le réalisateur, c'est Michael Showalter, qui est le réalisateur de Big Sick, une autre comédie romantique prime qui est exceptionnelle pour le coup, que je vous recommande de premier degré, devant laquelle j'ai beaucoup pleuré.
Qui est pas de prime à la base, hein, c'est
oui,
un film de cinéma.
Qui a été acheté par prime, voilà.
D'où peut-être le fait que c'est un meilleur film.
Effectivement. Enfin, Anne Hathaway ici s'éclate. Et honnêtement, je suis complètement pour ce genre de conneries qu'elle a. Parce qu'elle l'interprète, comme tu le disais, sans cynisme. C'est un peu le thème de ce soir de le cinéma américain qui revient à son côté premier degré. Surtout face à Nicolas Galitzine, qui joue du coup Harry Styles, qui a étudié point par point les vidéos. Je peux même vous ressortir les vidéos. Meilleur moment de Harry Styles 2010-2015. Enfin, je pense vraiment qu'il a étudié ça.
Ouais, et il chante vraiment, c'est vraiment.
Mais il chante vraiment, il a les mêmes mimiques, il a les mêmes faux tatouages que Harry Styles. Enfin, c'est insensé. Encore une fois, j'espère qu'il va bien, Styles, quoi. Et il les a recrachés à l'écran, honnêtement, ça force le respect. C'est un peu un acteur de studio hollywoodien à l'ancienne, ce mec, parce que Prime Video l'a trusté, mis sur le créneau acteur de comédie romantique hétéro et queer, selon. Et franchement, c'est la troisième ou quatrième comédie romantique dans laquelle je le vois. À chaque fois, il est sur un registre différent et à chaque fois il se donne à fond et on le croit mais à 2000% à qu'il est fou amoureux de la personne en face. Plus sérieusement, c'est un film qui a réussi, comme tu le disais Manon, à aborder avec un certain intérêt et une bienveillance intéressante le sujet de l'agisme envers les femmes, et malgré la différence d'âge conséquente, rien n'est gênant parce que les rapports de force sont souvent inversés, c'est-à-dire que lui il est connu planétairement, ce qui crée un rapport de force en sa faveur, mais elle a quasiment le double de son âge. À l'inverse, elle a plus trop confiance en elle du fait de son divorce et du fait que son mari, enfin son ex, est allé avec une femme plus jeune. Bon, ça a zéro crédibilité parce que, comme tu le dis, Anne Hathaway est sublime dans ce film. Mais en face, lui, il est complexé par sa carrière parce qu'il pense qu'on le prend pas pour un artiste sérieux. Donc en fait, dès qu'il y a un rapport de force qui se crée, l'autre le compense par autre chose, et ça fait qu'in fine, la relation passe très bien et est plutôt égalitaire à cet égard. Donc c'est, je pense, un très bon exemple de comment la différence d'âge peut être traitée au cinéma sans que ça soit malaisant. Alors comprenez-moi bien, il y a énormément de moments gênants parce que ça reste adapté de Wattpad, donc donc pour les non-initiés, une plateforme sur laquelle on écrivait des fanfictions. Donc bien sûr, c'est insensé 90% du temps, mais pour une comédie romantique, j'ai quand même passé un trop bon moment. Et on ne parle pas assez du retour du sexe dans cette comédie romantique qui, alors, bon, toute proportion gardée, on vient de parler d'un film sur le BDSM, on n'en est pas là, mais enfin, on sent une, vraiment du désir sensuel entre ces deux et ils se restreignent pour ne pas, parce qu'au début, elle ne veut pas parce qu'il y a la différence d'âge, et on sent qu'ils se retiennent, et puis finalement, ils se lâchent, et on voit quelques scènes de sexe hyper jolies, et ils sont, enfin vraiment, c'est beau quoi, c'est bien fait. Donc, personnellement, alors là, vu comment on vous l'a vendu, doucement, allez-y à reculons, surtout les gens autour de la table présentement. Mais sachez que c'est quand même un très bon moment, et donc on vous recommande de ça, et au passage de Big Sick aussi, qui est sur une autre tonalité, mais qui fait bien pleurer. Voilà, donc ça c'était pour les films de la semaine. Il nous reste donc à nous parler de Tokyo Vice, une série, sa saison 2 plus précisément. Alban va nous en parler, je pense qu'il est très content de nous en parler ce soir. On écoute la bande-annonce.
So, what exactly do you do all day?
I chase down stories.
What do you love most about your job?
I'd say the unpredictability of it.
Alors, Rita m'a pas lancé, j'étais perturbé.
Pardon.
Pas de soucis. On va parler de Tokyo Vice saison 2 et final season de Tokyo Vice parce que c'est la fin a priori de la série. En tout cas, c'est la fin de l'histoire qu'on suit depuis la saison 1, le début de la saison 1 dans Tokyo Vice. Je vais rappeler vite fait ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo Vice. C'est une série HBO Max qui est produite par Michael Mann et dont le pilote est réalisé par Michael Mann à chaque fois. Et c'est inspiré d'une autobiographie, c'est librement inspiré d'une autobiographie de Jack Adelstein, qui est un journaliste américain du Missouri à la base et qui a été engagé, un des premiers et un des seuls gaijin engagé dans l'équivalent du Monde au Japon en fait. Et on va suivre ses aventures, ses liens avec la police, surtout ses liens avec les Yakuza et ses liens aussi avec certaines hôtesses. Enfin voilà, c'est tout une sorte de microcosme qui vont se rencontrer et qui vont avoir des liens. Et on va suivre leur histoire et notamment... ce qui se passe en fond de l'histoire, c'est une sorte de guerre des gangs au Japon et comment lui va être mêlé à tout ça et comment la police est liée au Yakuza, etc. Et c'est vraiment passionnant. C'est passionnant parce que c'est super bien fait et que on n'est pas du tout dans une image très touriste en fait du Japon. On en fait pas des caisses. C'est vraiment le Tokyo reste le décor, mais on arrive à trouver des endroits qui nous donnent encore plus envie de voyager au Japon. Enfin vraiment, c'est une série que j'adore. Je saurais même pas comment vous dire pourquoi j'adore cette série, mais c'est vraiment incroyable. L'acteur est très très bon qui joue Jack Adelstein. C'est comment s'appelle-t-il, Ansel Elgort, qui était dans Baby Driver, je crois.
Et voilà. West Side Story.
Ah, le
Spielberg.
Le Spielberg, ouais.
Pas le...
Oui, j'imagine. Ouais. Ou alors il fait très jeune, bref. Et voilà. Et donc là, dans la saison 2, ce qui est cool, c'est que la saison 1 a passé un peu plus de temps, 3-4 épisodes, à vraiment planter le décor. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment encore les enjeux de ce qui allait se passer. On mettait, alors qu'est-ce que c'est qu'être gaijin au Japon? Qu'est-ce que c'est d'être journaliste dans une grande boîte comme ça, etc.? Qu'est-ce qu'une hôtesse? Qu'est-ce que les Yakuza? Et là, la saison 2, l'intérêt de cette saison 2, c'est que le décor est planté et qu'on suit la même histoire. Donc en fait, on est directement dans le dur du sujet. Et je trouve ça cool qu'ils arrivent directement à raccrocher les wagons avec la fin de la saison 1. Moi, je me souvenais pas forcément de ce qui se passait à la fin de la saison 1, même si j'avais adoré. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans le... On sent que c'est explosif et il y a une sorte de maîtrise en fait dans la mise en scène et une maîtrise aussi dans le scénario. C'est un scénario qui est super bien écrit où tous les personnages sont reliés entre eux. Ça fait pas du tout fake. C'est complètement... enfin, c'est complètement incroyable en fait la manière dont on écrit cette série. Honnêtement, c'est vraiment... c'est assez vertigineux. Et voilà, le gros point fort de la série à part le scénario, c'est qu'on s'attache à tous les personnages. Donc effectivement, on a le Jack Adelstein qui est le personnage principal. En tout cas, c'est le personnage qui va lier tous les personnages entre eux. Mais ensuite, on va s'intéresser à un jeune yakuza qui va gravir les échelons dans son gang. On va s'attacher autant à cette escorte qui va essayer de s'en sortir, qui va sortir de la misère et des gangs, etc. Et on est vraiment dans quelque chose de profondément humain, de profondément attachant, et en même temps dans une sorte de respect aussi de la tradition. Qu'est-ce que c'est d'être yakuza? C'est pas forcément que des flingues et que des tatouages. C'est aussi une sorte de manière d'être à l'autre, d'une manière de penser à la fois la religion, de penser l'honneur, le respect, la morale, etc. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'il y a même le grand méchant, parce qu'il y a un grand méchant forcément dans la série. On est presque triste pour ce qui lui arrive en fait à la fin, parce qu'il y a vraiment une sorte de code, de plongée en fait dans le cœur des traditions japonaises, de la culture, de la manière dont c'est dont sont pensées les relations humaines et les relations sociales. Et voilà, moi c'est vraiment le sujet en fait qui m'a vraiment passionné dans cette série, et sans en faire trop, c'est pas du tout quelque chose de boursouflé ou quelque chose de vulgaire, c'est vraiment une super série. Je vous encourage à regarder les deux saisons si vous n'avez pas regardé la saison 1.
Bah, tu donnes tellement envie quand tu en parles, Alban. Merci à toi, merci à Yuri qui réalisait, chroniquait, réfléchissait tout à la fois ce soir. Merci à Alban, Laurent, Phoenix et Manon pour cette émission tout en dualité. Et puis bien sûr, restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.